Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes, c'est absolument incroyable, déjà le lundi 30 août, il est 8h30. Il est plus résistant qu'un as à la technique, Corto. Salut Corto.
Eh, c'est tout moi, t'as vu.
Ouais, tu tiens le coup, hein. Pas de soucis. Allez, au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Guillaume Sonnet, qui est chargé de mission et fondateur de l'association L'Enfance de l'Art. Rendez-vous compte, une association créée en 1989 est toujours là, c'est un truc de fou. Cette asso, elle gère entre autres le vallon du Villaret, mais font aussi énormément de choses. Le vallon du Villaret, c'est un lieu magnifique, c'est à côté de Bagnoles-les-Bains. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y aller, franchement c'est génial. Et en deuxième partie d'émission, le tout premier reportage de Nico, notre cher stagiaire qui bosse comme un acharné. On pourrait le salarier, je pense qu'il fait le boulot d'un salarié, c'est un truc de fou. En tout cas, il est allé à la rencontre de Mariette Émile. Elle est guide touristique, entre autres, au pont de Montvert. On l'avait reçue dans nos studios l'année dernière. Eh bien aujourd'hui, c'est nous qui sommes allés chez elle. Il y aura de la musique comme d'hab, mais mon Corto, si tu veux bien, on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Ah, les terres rares. Je vous en ai déjà parlé sur cette antenne. La quête aux terres rares pourrait bien défigurer le Groenland. Et ouais, la société d'exploitation minière Cobold Metals, soutenue par les 3 milliardaires, tenez-vous bien, les philanthropes Michael Bloomberg, Jeff Bezos et Bill Gates. Donc c'est cette entreprise, hein, Cobold Metals, a signé un accord avec Blue Jay Mining pour lancer une mine de terres rares sur la côte ouest du Groenland. Leur objectif final est extraire du nickel, du cobalt et du platine afin de construire des batteries de véhicules électriques. Ce projet est soutenu par le gouvernement groenlandais à la recherche d'argent pour financer son indépendance. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Des scientifiques ont lancé l'alerte pourtant sur son impact néfaste pour l'environnement. L'enfer est pourtant pavé de bonnes intentions, dit-on. La face cachée de la transition énergétique en est sûrement l'exemple le plus flagrant. Alors que les constructeurs automobiles misent sur l'avenir des voitures électriques, les terres rares nécessaires à leur fabrication engendrent pollution et massacrent des droits humains les plus élémentaires selon les pays où sont utilisées les mines. Mais bon, les trois philanthropes que sont les trois milliardaires suscités n'en ont bien sûr cure. Bon, vous inquiétez pas, en Groenland, les gens ne seront pas exploités, hein, ils laissent ça en Afrique. Ironie de cette histoire, ce serait justement pour avoir des terres rares plus éthiques, c'est-à-dire ne dépendant pas du travail d'enfants au Congo par exemple, que la société d'exploitation minière Cobalt Metal a décidé d'investir 15 millions d'euros jusqu'en 2024 pour aider son éminogue britannique Blue Jay Mining à créer une mine de terres rares en Groenland. Alors, comme je vous le disais plus haut, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Groenland dépend chaque année du Danemark pour 591 millions de dollars de subventions, ce qui représente environ 60% de son budget annuel. Un accord officiel pour l'émancipation a été signé entre les deux nations en 2008. Reste donc à trouver l'argent. Bah ouais, le Groenland a besoin de pognon quand même. Et c'est pourtant bien pour racheter son indépendance au Danemark que le Groenland ouvre aujourd'hui ses portes à autant de projets d'exploitation minière. Au printemps dernier, pourtant, la nation, de 56 000 personnes quand même, s'était rendue aux urnes pour s'opposer à l'exploitation d'un énorme gisement de minerais et d'uranium situé dans une région agricole et touristique. Mais là, la pression financière des 3 milliardaires va sans doute inciter le gouvernement du Groenland à ne pas demander son avis au peuple. Force à l'argent, l'écologie ? Mais quelle écologie ? Allez, profitez bien si vous êtes prof de vos derniers jours de vacances, on écoute Gauvrach et merde, je suis prof.
La cloche vient de sonner au collège Edgar Poe. Je termine mon café, c'est l'heure de se mettre au boulot. Coincé dans un couloir avec des ados hystériques, je sens qu'en classe, il va falloir que je passe mon temps à faire le flic. Parce que mon taf, c'est de lire Rimbaud, c'est de faire découvrir Mallarmé, c'est de faire aimer Victor Hugo à des fans de Christophe Mahé, c'est de leur réciter du Baudelaire qu'ils aiment trop, pensent aux gros bolos. Faudrait que je leur fasse kiffer leur mère juste en leur lisant l'Albatros. Je suis devenu prof, bordel, et quand je fais cours, tout le monde ricane. Je suis devenu prof, mon job c'est de lire Corneille à des jeunes boutonneux qui rêvent d'avoir la carrière de Zidane. Je suis devenu prof, c'est quand même pas de bol. parce que je l'avais, cette putain de vocation. J'ai dû la perdre sur les bancs de notre école. Qu'a fait de moi un professeur qui ne pense plus qu'aux récréations? Après chaque heure de cours, je vais faire un tour en salle des profs. Et c'est toujours le même discours, le même scénario catastrophe. On se dit que les élèves, c'est plus ça, ça fait 30 ans que le niveau baisse. Sans doute que c'est peut-être grâce à ça qu'on a décroché notre CAPES. Et puis moi je viens de l'IUFM, mon job c'est de mettre en pratique ce qu'exigent les garants du système qui se branlent dans le bouquin didactique. Seulement toutes les conneries qu'ils sèment pour qu'elles fleurissent dans nos cerveaux, elles fonctionnent à Paris 16e mais pas au collège Edgar Poe. Et moi, c'est là que je suis prof, bordel! Et quand je fais cours, tout le monde chahute. Je suis ce prof dont tout le monde se rappelle parce qu'une fois en une heure de cours, il a dit 400 fois le mot chute. Arrêtez de rire, ou je vous fous tous en colle. Tant pis pour vous, tant pis pour ma vocation. Allons nous perdre sur les bancs de notre école, qu'a dû oublier de faire ses devoirs en matière d'éducation. Les 6 ans, la grande angoisse de l'inspecteur d'académie, qu'a le sourire d'un jour de poisse et la chaleur d'un jour de pluie. Surdiplômé en Alzheimer, plus il nous sac, plus il oublie qu'avant de devenir inspecteur, il était professeur aussi. Et enfin, les parents d'élèves persuadés, comme tout le monde en France, qu'un prof, quand il n'est pas en grève, il est malade ou en vacances. Du coup, dans certaines discussions, je serais CRS, ce serait moins pire. Quand on me demande ma profession, je fais et j'ose pas dire que je suis devenu prof. Bah ouais, je suis devenu prof. Bordel !
Nous sommes avec Guillaume Sonnet, bonjour.
Bonjour.
Chargé de mission et fondateur de l'association L'Enfance de l'Art, on va en parler, et d'un lieu fantastique, le Vallon du Villaret, le parc d'attractions de Lozère, à côté de Bagnoles-les-Bains. Guillaume, merci d'être avec nous. Il y a plus de 30 ans, vous avez décidé de créer l'association L'Enfance de l'Art. Alors, d'où et comment est née l'idée de cet asso?
Alors, bah, les choses sont à la fois simples et compliquées, comme toujours. C'est-à-dire que il s'agissait de créer l'association qui allait porter le projet culturel du Vallon du Villaret. Et puis en même temps, même s'il se passe plein de choses au Vallon, il y avait d'entrée, puisque l'association s'appelle l'Enfance de l'Art, une volonté très claire d'avoir de nombreuses actions pédagogiques auprès des enfants, des adolescents et des adultes.
Super. Et alors, quels sont les objectifs et les missions de cet asso?
Alors, l'association fait pas mal de choses. Déjà, en le disant brièvement, ce qu'on peut dire, c'est que il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas seul, qui ne se passent pas au Vallon, mais sur l'ensemble du département,
ouais.
Puisque les actions que nous menons en scolaire, en milieu scolaire, touchent plus de 3000 élèves chaque année. Ça commence à faire quelques-uns.
C'est sûr. Ouais, c'est ce que vous appelez le service éducatif, hein.
Voilà, c'est-à-dire que, alors l'association, si on essaie de découvrir un petit peu ses activités, bon, bien sûr, il y a les expositions. Exposition au Vallon du Villaret, deux expositions qui sont montées avec, en partenariat avec la ville de Mende chaque année, une à l'automne à partir des collections des œuvres du FRAC et une pendant l'hiver avec un artiste. Et puis il y a depuis cette année, en partenariat avec le collectif Ligne d'Horizon, une quatrième exposition, c'est celle qui est présentée actuellement au domaine de Boissé.
Magnifique domaine aussi, c'est sûr. Alors, pour vous, c'est en 85 qu'a germé l'idée d'un parc qui allierait culture, art et nature. L'idée est bien qu'excellente, la preuve aujourd'hui, hein, tant le succès est au rendez-vous. Mais au départ, l'idée, c'était quand même un peu complètement fou, non?
Bah, c'est-à-dire, c'est surtout l'époque qui était un peu décalée par rapport à maintenant, puisque il faut imaginer qu'en 85, Disney n'existait pas, enfin Disney... Euro Disney n'existait pas, le Futuroscope n'existait pas. Donc bien évidemment, le fait qu'il y ait un jeune fou qui essaye de proposer un parc à thème en Lozère et pas à côté de la 75, ça a effectivement et logiquement perturbé et inquiété un certain nombre de personnes. Et puis finalement, avec le temps, très rapidement, la viabilité des choses s'est montrée d'année en année.
8 ans de travail, le parc a vu le jour en 93, il me semble, c'est ça?
Tout à fait, 93, et on a fêté, il y a 2 ans, en 2019, notre 1000e visiteur.
Waouh.
Ça commence à faire quelques-uns.
Qu'est-ce qui a été le plus dur pour réaliser le projet?
C'est tout le montage financier. Il fallait l'équivalent de 1,5 million d'euros à mobiliser. Donc c'était compliqué, mais en même temps c'était propice en ce sens que la Lozère dans les années, à la fin des années 80, début des années 90, c'était un peu, on va dire, la Roumanie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait des aides de l'Europe assez conséquentes pour pouvoir développer les choses, et puis les choses se sont développées à partir d'un soutien de l'Europe, de l'État, de la région, du département, tout le monde a été présent.
Aujourd'hui, vous l'avez dit, plus d'un million de visiteurs, ce sont des dizaines de milliers de visiteurs par an. Est-ce que vous attendiez un tel succès et au final, est-ce que c'est possible de l'expliquer?
On est quand même sur une... il y a eu des périodes, c'est-à-dire que au départ, on a créé, on a lancé et on est arrivé au début des années 2000 à un maximum qui a été de 50 000 visiteurs par an. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, d'une part, tous les accrobranches n'existaient pas, et d'autre part, pour ce qui est de la grande région, Vulcania n'existait pas, Micropolis n'existait pas. À partir du moment donné où l'ensemble de ces lieux ont ouvert, on a une fréquentation qui a baissé, mais qui reste régulière et satisfaisante, qui nous permet d'équilibrer les charges.
Vous êtes un ancien institut, hein, si je ne m'abuse, c'est ça ?
Oui, un site spécialisé. Je travaillais avec des enfants psychotiques et autistes.
Et vous avez dit dans un article qui vous est consacré dans Lozère Nouvelle Vie que vous étiez effrayé par le côté normalisateur de l'éducation nationale et que vous estimiez que la rencontre avec l'inconnu ne peut se faire que si l'on a dépassé ses peurs. Est-ce que c'est toujours votre avis et finalement, est-ce qu'on donne les moyens aux professionnels de l'éducation qui font comme ils peuvent, avec les moyens qu'on leur donne? Et vous êtes là maintenant pour les épauler aussi?
Ben oui, on est là pour épauler et pour soutenir. C'est vrai qu'on a souvent vécu cette affaire qui est toujours un peu magique d'arriver pour un travail avec une école, un enseignant qui n'est pas forcément sensibilisé à l'art contemporain et qui se dit « Mais mon Dieu, quel est cet univers d'intello abstrait, abstrait, etc. etc. » Et puis, très très vite, quand on met les enfants devant des œuvres et qu'ils apprennent à parler à la fois de ce qu'ils voient et puis ensuite de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils en pensent, une fois que la parole se libère sur ces plans-là, l'art contemporain devient tout à fait accessible, y compris aux enfants de maternelle. Et on a vécu un certain nombre de fois des enseignants très agréablement surpris par ce qui se passait, qui se lancent dans une action en disant « Bon, dans un quart d'heure, on aura tout bouclé. » Et puis une heure et demie après, les enfants ont encore plein de choses à dire. Et donc, ça a conforté les enseignants au fil des années dans l'idée que l'art, effectivement, que l'art d'aujourd'hui est accessible aux enfants. Et puis, il faut bien resituer ça dans le contexte général. On est dans un monde dans lequel l'image, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers la télé, à travers tout ce qu'on voudra, la publicité, donc un monde dans lequel l'image a une importance considérable. Et donc, apprendre à lire l'image et se forger une pensée, ça fait vraiment partie d'un travail d'éducation, d'apprentissage. Et l'art contemporain est vraiment un très bon support pour apprendre à lire les images, qu'elles soient en 2D ou en 3D, et apprendre à se forger une pensée personnelle.
Surtout qu'en plus de ça, au Vallon, c'est évidemment ludique, c'est interactif. Le lieu est absolument magnifique, je peux en témoigner. Comment d'ailleurs vous choisissez les artistes qui ont créé les structures? Grosso modo, la direction artistique, ça fonctionne comment?
Alors, ça fonctionne d'une manière... Enfin, le lieu a une particularité qui est rare au plan national, c'est qu'on présente des... Si vous voulez, le monde de l'art est très cloisonné en France. Vous avez d'un côté les plasticiens, tels qu'on peut l'entendre au ministère de la Culture. Vous avez des artistes tels qu'on peut l'entendre du point de vue de la Chambre des métiers et des métiers d'art. Vous avez des artistes singuliers qui échappent à toute classification. Vous avez des artistes scénographes qui mettent l'espace en scène. Et l'une des grandes particularités du Vallon, c'est que toutes ces familles d'artistes sont un peu mélangées. On n'est pas que métier d'art, on n'est pas que plasticien ministère, on présente des formes extrêmement variées de l'art. Et donc la direction artistique, dans ce qu'elle est aujourd'hui, maintenant je dirais que les bases sont posées, consiste à compléter l'existant avec des nouvelles formes d'art qui permettent de, toujours pareil, d'en manger, d'en manger, d'en manger, et petit à petit de se forger un point de vue personnel.
Alors justement, est-ce que le vallon évolue encore et est-ce qu'il y a des nouveautés de prévues d'ici 2022?
Alors il y a toujours des nouveautés au vallon. Si le vallon n'était plus dans la nouveauté, il n'existerait plus. Mmh. Donc oui, il y a toujours plein de projets. On a un projet à l'automne avec une jeune artiste sétoise qui s'appelle Marion Monique. On a un projet qui sera réalisé d'ici l'an prochain avec une nouvelle sculpture en mouvement, avec un Toulousain de Montauban qui s'appelle Stéphane Casté, et puis bien sûr les renouvellements des expositions, etc.
On sent votre passion pour l'art, et puis vous êtes en prix de liberté aussi. Quel est votre regard sur ce que nous vivons aujourd'hui, surtout en ce qui concerne la culture?
Que dire? Enfin, c'est difficile de poser un point de vue si général sur un sujet aussi général.
Ouais.
Disons que ce qu'on peut dire, c'est qu'il est possible de faire des choses. Voilà. Après, on se rend compte, c'est assez intéressant. Bon, moi, je suis impliqué dans des associations, dans l'association Air du Midi, qui regroupe l'ensemble des lieux d'art contemporain et du Languedoc-Roussillon et du Midi-Pyrénées, donc la région Occitanie. Mmh. Et on se rend compte que selon les régions, les choses se sont structurées de manière différente. Vous avez plein de centres d'art du côté de Midi-Pyrénées, donc beaucoup de collectivités qui se sont lancées dans des projets de création de lieux avec des moyens pour travailler, pour avancer, etc. Du côté du Languedoc-Roussillon, il y a des petites structures qui font tout un tas de boulot, et puis autrement, les structures, elles sont très régionales. Les collectivités dans l'ex-Languedoc-Roussillon, ce sont relativement peu, bien sûr il y a des exceptions, mais moins investis dans l'art contemporain que du côté de Midi-Pyrénées. Mais donc chaque territoire a une histoire, chaque territoire a ses projets, les choses avancent et on peut dire que les choses avancent. Et puis là je parle que des arts plastiques, mais si on rajoute la danse, le théâtre, les disciplines circassiennes, etc., la musique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent.
Positivisme à fond, ça fait du bien. Bientôt la fin de la saison, je suppose, pour le vallon.
On arrive au dernier jour du mois d'août. Oui, ça a été une année très, très difficile. Enfin, ça fait déjà 2 ans que c'est des années difficiles. L'an passé, pour des raisons de surfréquentation qui n'ont pas été simples à gérer. Mmh. Et puis cette année, pour des histoires de sous-fréquentation, parce que bien évidemment, la mise en place du pass fait qu'on a une fréquentation qui a baissé de manière significative.
Bien sûr. Comment ça va se passer pour vous à partir de la rentrée au niveau de l'ouverture?
Alors, ça ne change pas grand-chose par rapport à là où on en est maintenant. Nous, on demande le pass sanitaire sur le vallon depuis le 21 juillet. On n'a pas d'opposants bloqués dans l'équipe. Donc, il y en a qui ne sont pas encore vaccinés. Il va y avoir les tests, il va y avoir les vaccins qui vont avancer. Et puis après, on verra ce que sera 2022.
Et les jours d'ouverture, ce sera quand?
Alors, on était ouvert tous les jours, et à partir du 1er septembre, on est ouvert seulement les week-ends, le samedi, le dimanche, et puis bien sûr, tous les jours pour les vacances de Toussaint.
Le lieu est magnifique. Allez, auditeurs, auditrices, au vallon du Villaret. Merci Guillaume.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes chargé de mission et fondateur de l'association L'Enfance de l'Art. Toutes les infos sont sur levallon.fr. Bonne continuation Guillaume, et à très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. Allez, dans un instant, on part au pont de Montvert. On écoute d'abord Charlie Winston, Like a Bonobo.
I've always known since I was a young boy in this world. Everything's as good as bad. Now my father told me, always speak a true word. And I have to say, that is the best advice I've had. Because something burns inside of me. It's everything I long to be. And lies, they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me.
some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Oh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me.
L'année dernière, on avait reçu Mariette Émile, qui est guide touristique dans nos studios, pour une petite interview. Bah, cette année, c'est elle qui a reçu Nico pour une de ses visites historiques du pont de Montvert. C'est le premier reportage de Nico, on écoute ça tout de suite.
Aujourd'hui, on a rendez-vous au pont de Montvert, pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Le pont, c'est un village installé à 875 mètres d'altitude à la jonction de trois cours d'eau, le Rieu Mallet, le Martinet et le plus connu des trois, le fameux Tarn. Le village existe depuis bien des siècles, mais est devenu connu suite à la révolte des Camisards au tout début du XVIIIe siècle. Mariette Émile va nous en dire plus. Mais au fait, c'est qui Mariette ?
Alors je suis guide depuis 2 ans en fait. J'ai commencé en 2020, en février 2020. J'ai toujours aimé l'histoire, j'ai fait une formation en lettres moi et en tourisme. Puis après j'ai fait autre chose et j'ai toujours aimé l'histoire, donc j'ai toujours appris des choses en histoire. Et le diplôme de guide, en fait, c'est un diplôme national, c'est un bac plus 3. Donc j'ai passé le diplôme il y a 3 ans, du coup. Donc j'ai bossé en histoire et surtout en histoire de l'art, parce que c'est la partie que je connaissais moins, quoi. Et quand je suis arrivée dans la région, j'ai habité au pont pendant 5 ans. J'ai adoré le pont de Montvert. Et maintenant, j'habite à Vialas, j'adore Vialas aussi, j'adore la région de toute façon. Et après, le pont de Montvert, c'est parce que j'aime beaucoup le village. Le bâti du village me semble vraiment intéressant. Et j'aime beaucoup cette histoire de la guerre des Camisards, j'avais envie de la raconter d'une manière un peu plus vivante, quoi. Voilà. Et quand je suis arrivée là, du coup, en arrivant au pont, j'ai travaillé à l'office de tourisme, donc forcément, l'histoire des Camisards, elle m'a interpellée. Et après, j'ai beaucoup lu, Cabanel, Joutard, etc., tous les historiens de l'histoire du protestantisme. Et puis, j'ai beaucoup lu aussi une historienne qui s'appelle Marie-Lucie Dumas et qui habite en pays catholique, Sévenol est catholique, et qui, du coup, a amené une vision un peu différente là, de l'histoire, voilà, de l'histoire des Camisards dans les Cévennes, pas particulièrement au pont, mais dans les Cévennes. Okay. Et puis après, il y a Isabelle Darnas aussi qui a beaucoup travaillé sur le bâti du pont de Montvert et qui a écrit un bouquin qui est remarquable sur le bâti. Ça, c'est une source pour moi, hein, c'est génial, quoi. Il y a aussi Simone Crossallier qui habite au pont de Montvert, qui a beaucoup travaillé sur la région. Il y avait Odile Rival qui travaillait à l'écomusée. Tout ça, c'est des érudits locaux et moi, j'écoute toujours les érudits locaux. Et donc, j'ai appris plein de choses grâce à eux, quoi. Okay. Voilà.
Ces choses qu'elle a apprises, elle nous en fait part lors de visites qu'elle anime tous les mercredis de l'été. Allez, en voiture. On a rendez-vous à 10h devant l'office du tourisme au pont. Là, on est arrivé. Ça grouille les mercredis au pont. Il y a le marché, les touristes en voiture et le bruit de ces trois ruisseaux.
J'en fais en juillet-août, j'en fais une par semaine, c'est le mercredi matin. Okay. Et quand il y a beaucoup de monde, je peux en rajouter une l'après-midi, là c'est le cas cet après-midi. Et après, hors saison, en mai, juin, septembre, octobre, je propose des visites le dimanche matin pour les gens qui viennent au pont aussi. Au pont. Ouais, ouais. Donc du coup, ça fait une par semaine de mai à octobre. Du coup, c'est 8 euros pour les adultes et c'est 6 euros pour les enfants de 8 à 13 ans. Okay. Et avant 8 ans, c'est gratuit. Alors, ce n'est pas pour que tous les enfants de moins de 8 ans viennent, parce qu'en fait, le discours n'est quand même pas très adapté pour les enfants avant 8 ans. 7 ans, ça va, mais en dessous, c'est un peu compliqué quoi, à comprendre. La guerre des camisards, un peu sanglante quand même. Donc, des fois, il est tout petit, j'ai peur qu'il fasse des cauchemars. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et après, du coup, je fais aussi des visites pour les groupes. Ça, c'est une partie qui est moins connue, mais en fait, les groupes me demandent et je fais une visite du pont de Montvert ou d'autres villages dans la région. Quoi. Il y a des fois où il y a moins de monde quand même. Alors, ça, c'est la deuxième année, donc là, ça commence à bien fonctionner. Il faut un peu de temps quand même pour prendre son temps. Puis moi, je fais ça en activité complémentaire, donc j'ai pas beaucoup de temps pour la communication. Ouais. Donc, il y a des fois où j'ai des visites où j'ai que 4 personnes au mois de mai ou juin. Bon, c'est pas grave, je fais 4 personnes. Et par contre, je limite les groupes parce que. Bon, là, je limitais à 17, 18. Là, je suis même un peu descendue par rapport au Covid parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation. Des fois, on est un peu serré. Voilà, je limite la taille des groupes parce que j'ai pas envie d'avoir des groupes trop importants comme on peut faire dans les grandes visites en ville. Là, moi, c'est pas ma manière de travailler, ça me convient pas. Après, c'est pas interactif. Ça veut dire qu'il y a une ou deux questions, je prends deux questions et du coup, je peux pas faire participer les gens, notamment les jeunes. Si les jeunes ne participent pas au début, je les lâche. Donc, il faut que je les récupère au début. Là, cette année, il y a du monde au mois d'août, mais au mois de juillet, l'année dernière, au pont, il y avait autant de monde qu'au mois d'août habituellement. Quoi. Donc, grosse saison. Le problème pour moi, c'est les groupes. C'est que là, en ce moment, il n'y a pas de groupe. Quoi. Parce que Covid et que y a pas de groupe avec le Covid quoi. Bon, on verra après la suite. C'est pas grave, moi je commence et j'aime bien commencer, je me régale, c'est bien, c'est chouette, les gens sont cool, ils sont contents de sortir, c'est chouette.
La visite commence à 10h pétante. Elle commence en prenant de la hauteur sur le chemin de Stevenson pour avoir une vue d'ensemble sur le village. De là, on voit la draille, le chemin qu'empruntaient les moutons lors des transhumances. C'est autour de celle-ci, cette draille, que s'est développé le village. Les éleveurs venaient du sud, du Roussillon et du Languedoc, pour mettre leurs bêtes en pâture pendant les chauds mois de l'été. Le pont s'est construit au fil de l'histoire et servait de péage. Péage pour passer des Cévennes, sous l'influence de la famille d'Anduze, fidèle au comte de Toulouse, jusqu'au Gévaudan et le Mont-Lozère, sous l'influence du seigneur de Mende. C'est l'un des premiers seigneurs, d'ailleurs, à avoir prêté allégeance au roi de France. On a donc deux régions frontalières qui se côtoient mais qui sont diamétralement opposées, par leur culture d'une part, mais surtout par leur religion. Au nord, les catholiques, et au sud, les protestants. Et c'est là que les problèmes commencent. Quand Louis XIV décide de révoquer l'édit de Nantes, petite parenthèse pour ceux qui ne se rappellent pas, l'édit de Nantes, c'est Henri IV qui l'avait signé pour accorder la liberté de culte sur le territoire français. Bah, Louis XIV, il met en place un système de répression bien féroce pour convertir les protestants au catholicisme. L'abbé Duchesla s'installe au pont de Montvert en tant qu'inspecteur des missions catholiques. Les dragons militaires de l'armée royale, ils sont logés chez les dissidents. Tous les enfants doivent faire du catéchisme, sinon papa, il part aux galères pour 10 ans et souvent il en revient jamais. Ceux qui acceptent, par contre, pour éviter les persécutions, on les appelle les nouveaux convertis et ils sont mis à contribution pour surveiller et réprimer les protestants. Toute une époque où les parents ne font donc pas de vagues, mais où les jeunes se rassemblent en secret dans les montagnes pour pratiquer leur religion malgré les interdictions. Et en 1702, tout bascule. Françoise Bresse, une prophétesse très populaire chez la jeunesse protestante, est pendue le 24 janvier au pont de Montvert sur les bords du Tarn. Des jeunes protestants sont tenus prisonniers par l'abbé de Chéla, et c'en est trop pour la jeunesse protestante qui descend des montagnes le 24 juillet 1702, brûle la maison de l'abbé de Chéla et le larde de 52 coups de couteau. Ensuite, c'est au tour du curé de Frugères d'être assassiné. Il était spécialiste, lui, de la dénonciation de ceux qui n'emmenaient pas leurs enfants au catéchisme. Un assassinat qui marque le début de la révolte des Camisards. Camisards, car leur armure, c'était une chemise, tout simplement. Une révolte qui va durer 3 ans et qui va marquer les Cévennes à tout jamais. On parle d'une guerre civile où des milices catholiques sont armées par l'armée royale de Louis XIV pour combattre leurs frères, cousins et voisins protestants. Cette révolte est d'ailleurs sous-estimée par le roi de France qui pense que les Camisards ne passeront pas l'hiver. Sauf que ce qu'il savait pas le roi de France, c'est qu'ils ont le soutien de la population, qui les nourrit et les loge durant les périodes de grand froid. Pour contrer ça, Louis XIV met en place fin 1703 quelque chose qu'il va appeler lui-même le grand brûlement des Cévennes. Ça va être une période terrible pour la région. Une grosse partie de la population est expulsée pour brûler les villages et les récoltes, ce qui provoque une famine sans précédent. En 1704, les Camisards demandent l'amnistie pour quitter le pays, mais leur première revendication, la liberté de culte, ne sera jamais obtenue. Elle réapparaîtra en France seulement à la fin du siècle avec la Révolution française. La visite est terminée, et au final, Célestin, qui a 15 ans, et qui traînait un peu la patte au début de la visite, il a l'air conquis.
C'est super, c'est intéressant. J'ai bien aimé la guerre, j'ai pas envie de découverte.
André, une autre participante, le rejoint complètement sur ce point.
C'était très intéressant, et ça m'a même rappelé certains souvenirs que j'avais oubliés. Je me souvenais pas que les Camisards avaient résisté aussi longtemps. Il me semblait que c'était beaucoup plus court que ça. dans ma mémoire. Je ne me souvenais pas qu'ils avaient combattu tout seuls comme ça, ces jeunes, aussi longtemps.
Elle le répète, la guerre a duré dans le temps et marqué les Cévennes au fer rouge. Mariette la guide, elle nous explique que les relations entre catholiques et protestants ont changé très récemment dans l'histoire de la région.
Et ben dans les années 80, à partir des années 80, il commence à y avoir un vrai mélange entre les populations catholiques et protestantes et une sorte de détente à la fois dans la vie de tous les jours, mais aussi sur la question de l'histoire. Donc on commence à être un peu plus détendu sur la question, entre autres parce que sont arrivées des populations qui sont ni catholiques ni protestantes. Et bah, ça détend un peu tout le monde, hein, je pense. Du coup, catholiques et protestants, au contraire, se regroupent face à l'athéisme, peut-être. Ça, c'est une belle façon de se retrouver, voilà, c'est ça.
C'est la prochaine guerre de religion.
Non, j'espère que ce n'est pas la prochaine guerre. Enfin, c'est un apprentissage de la tolérance. Après, les Cévennes, depuis les années 80-90, il y a une nouvelle population qui arrive, donc ça brasse un peu. Et donc, ça permet de sortir de types qui sont hérités, en fait, de génération en génération. Puis les modes de vie ont changé. Dans les années 50, on n'a pas d'autre avenir que celui de faire le même métier que ses parents. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Les jeunes sortent, bougent, vont à l'école, reviennent, repartent. Donc tout ça, c'est à la fois une plus grande légèreté. Et il faut faire attention à ne pas perdre une mémoire aussi, qui est une mémoire orale transmise par les familles. Donc il faut faire bien attention à avoir cet équilibre-là entre la liberté enfin obtenue dans le sein d'une famille et la mémoire qui est importante. Hein. On ne vit pas sans mémoire, hein, je pense. Hein.
Des mouvements de population, il y en a dans les deux sens. Les jeunes de la région sont plus libres qu'avant d'aller étudier ou travailler ailleurs. Et ça crée forcément des opportunités pour ceux d'ailleurs de venir s'installer dans le coin. Comme le confirme une étude de l'INSEE, depuis quelques années, le parc bénéficie d'un regain démographique. Sa population augmente à nouveau grâce au solde migratoire positif qui, désormais, fait plus que compenser le déficit du nombre de naissances sur celui des décès. Malheureusement, ces nouveaux arrivants ne sont pas toujours bien accueillis et ça crée des nouveaux clivages dans la région, en fonction des saisons, selon Mariette.
C'est dur ce que je veux dire, ça n'existe pas en hiver. Les gens qui vivent au pont toute l'année, ils n'ont pas du tout ce type de rapport, parce que quand on vit au pont ou dans les Cévennes en hiver, en fait, on est proche des autres habitants, quelle que soit leur religion ou même quelles que soient un peu leurs opinions politiques. Ce type de position